3, 2, 1. Bienvenue sur la chaîne Ambiance, Architecture, Urbanité, AAU.
Voilà, parfait.
Des rencontres AAU qui ont commencé en juin dernier,
qui se termineront demain. La journée aujourd'hui a pour titre l'ordinaire de la fabrique urbaine. Elle a été prise en charge par les collègues de AAU, Laurent Devim, Élise Roy, Kevin Chenel et Axel Pavreau, qui est dans le petit cadran là-bas de l'autre côté, qui n'a pas, malheureusement pas pu se déplacer. Je voudrais remercier les coordinateurs de cette journée, remercier aussi l'équipe support de AAU qui permet que ces journées aient lieu concrètement en prenant en charge leur organisation pratique. Et bien sûr, je voudrais souhaiter la bienvenue et remercier nos intervenants de la journée qui ont accepté de venir discuter avec nous. Voilà, je ne serai pas plus long. Je passe tout de suite la parole à Élise pour l'introduction de cette journée et je vous souhaite de bons débats.
Alors, lorsque on a réfléchi à l'organisation de cette journée consacrée à la ligne d'horizon tracée et critiquée la fabrique architecturale urbaine et paysagère, il nous a paru intéressant de nous concentrer sur l'ordinaire de cette fabrique pour différentes raisons. D'abord parce qu'il nous semblait que l'une des caractéristiques des travaux que l'on conduit dans le laboratoire, inscrit dans le champ des études urbaines, était une entrée par l'ordinaire. Lorsqu'on tente d'approcher au plus près les activités qui fabriquent de la ville, qui fabriquent de l'espace urbain, en cherchant notamment à se tenir à distance des récits qui accompagnent la production urbaine. Tracer la ville en action renvoie bien à un parti pris théorique. Il s'agit de dépasser l'approche institutionnelle et de travailler à l'échelle micro des individus, d'être attentif à ne pas lisser les processus de négociation, de décision, les controverses, et ainsi de nous mettre en position de rendre compte des arrangements permanents qui font les politiques urbaines et les projets d'aménagement de l'espace contemporain. Cette perspective théorique, elle s'adosse à un parti pris méthodologique. Lorsqu'on se propose d'assurer un suivi ethnographique des activités de la production urbaine, en étant sensible à la spatialité, à la matérialité, à la place des actants dans les dispositifs d'action. Et ça, ça nous engage à assumer la part descriptive du travail du chercheur en tension avec la part analytique. Notre équipe, elle travaille autant sur une fabrique institutionnelle, cadrée, que sur une fabrique que l'on peut qualifier d'émergente, en voyant à une production d'espace à bas bruit, notamment portée par ces acteurs dits ordinaires que sont les habitants, les citadins, les citoyens, ces acteurs non professionnels, mais qui en même temps peuvent par ailleurs être professionnels, on le sait, par des enquêtes conduites sur les comités de quartier ou sur des mouvements sociaux contre les politiques d'aménagement. Mais ils peuvent parfois aussi être des acteurs profanes, c'est le cas de nos copropriétaires nazériens, qui peinent à se mettre dans une dynamique de projet parce qu'ils manquent de clés de compréhension des mondes de la construction, mais aussi des mondes juridiques de la copropriété. Alors ici, il semble que les lignes tendent à bouger avec le développement d'expertises citoyennes et alternatives, ou encore avec l'essor de sciences participatives, terrain d'enquête renouvelé pour notre équipe. Un coup d'œil du côté des travaux conduits par les plus jeunes d'entre nous, jeunes chercheurs, doctorants, souligne bien la vivacité de ce travail sur l'ordinaire au sein de notre laboratoire, et les contributions à cette journée pourront mobiliser un certain nombre de ces travaux. Et puis, interroger l'ordinaire de la fabrique urbaine à l'occasion de cette journée nous semblait aussi intéressant parce que le petit, le moyen, le minuscule, semble faire l'objet d'un regain d'intérêt autant dans les mondes de l'action que dans ceux de la recherche urbaine. ville du quart d'heure, urbanisme tactique, petite ville de demain, urbanisme de gestion apparaissent comme autant de catégories d'action qui ont pu précédemment rester un peu dans l'ombre de deux décennies de grands projets et de politiques de métropolisation. De la même manière, urbain quotidien, périurbain, périmétropolitain, petit territoire, urbanisme des modes de vie sont autant de sujets d'attention de la recherche urbaine et architecturale qui ont comme gagné en reconnaissance durant ces dernières années. Voilà, alors pour introduire cette journée, il me revient donc de tenter quelques premières mises en perspective des recherches sur cet ordinaire de la fabrique urbaine. Par important de se dire d'abord que le tournant de la recherche urbaine qui acte d'une attention portée aux acteurs et aux actions est déjà ancien, comme le soulignent différents travaux d'histoire de la sociologie urbaine et des auteurs comme Christian Topalov et Yves Grafmeyer. Il y a 10 ans, Grafmeyer écrivait que les travaux portent sur des habitants, sur des responsables politiques, sur d'anciens ou nouveaux métiers de la ville. L'attention se fait plus soutenue que par le passé aux modalités selon lesquelles ces divers acteurs engagent dans leur pratique une certaine idée de la ville et font de la ville ce qu'elle est tout en lui donnant sens. Je cite encore, « De même, les problématiques construites autour de la notion de gouvernance ou encore des régulations urbaines conduisent à reconsidérer les différences et les interférences entre producteurs et usagers de la ville, entre action publique et action privée, et entre les diverses échelles territoriales concernées. » Donc, si ce tournant est maintenant ancien, on peut s'interroger aujourd'hui sur les avancées de la recherche depuis ce tournant. Mais encore, on peut se demander ce que l'on pourrait bien perdre en étant ainsi concentré sur le petit, sur le micro, sur le quotidien. À ce sujet, on peut évoquer un article écrit par Yves Como à la fin des années 80, dans lequel il analyse la résurgence de la vie quotidienne comme préoccupation sociologique, et y voit une réponse à l'affaissement des grandes théories dominantes, le marxisme, le fonctionnalisme et le structuralisme. Des théories qui semblent omettre la capacité de création des acteurs sociaux, la production quotidienne des dominés, l'inventivité de la masse sociale. Mais en même temps, selon lui, ces sociologies ne sont pas exemptes de critiques lorsqu'elles se tiendraient finalement trop à distance des relations structurales. Donc en écho, on peut se demander si les sociologies de la fabrique urbaine ordinaire que nous mettons au centre de nos attentions aujourd'hui peuvent nous rendre aveugles à des structures qui mériteraient pourtant d'être éclairées dans la tradition, par exemple, d'une sociologie critique de la production de l'espace. Et en tout cas, on peut utilement interroger les équilibres à trouver dans nos travaux entre ces différents régimes micro, macro de la production urbaine. Ce n'est pas une activité ordinaire que de s'interroger sur l'ordinaire. J'emprunte ce sous-titre à la revue Local Contemporain pour introduire maintenant une tentative de définition de ce que peut bien être cet ordinaire de la fabrique urbaine. D'une manière générale, l'ordinaire, qui peut être un adjectif ou un substantif, c'est ce qui découle d'un ordre de choses ou appartient à un type présenté comme commun et normal. Ainsi, l'ordinaire renvoie au normal, au commun, au courant, à l'habituel, et s'oppose à l'exceptionnel. Dans le champ de l'urbanisme et des politiques urbaines, où le juridique est important, on voit bien comment un urbanisme de droit commun, qu'on pourrait appeler un urbanisme ordinaire, se montre d'un tout autre ordre que celui d'un urbanisme de grand projet qui va pouvoir mobiliser des moyens exceptionnels. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, d'aller enquêter sur un ordinaire du grand projet, puisqu'il a bien, lui aussi, ses routines, ses activités quotidiennes. J'ai hésité, mais j'ai quand même retenu encore de cette page du portail lexical une citation tirée de La Dame aux Camélias, écrite par Alexandre Dumas, fils, en 1848. « Du jardin, qui est à la hauteur d'un premier étage ordinaire, on découvre une vie magnifique. » Parce qu'il me semblait intéressant de souligner que l'ordinaire peut aussi être une catégorie de définition des espaces. Il y avait dans les immeubles des étages nobles, des étages ordinaires. Il y en a sans doute encore, même si le terme n'est plus en usage. Et ça fait écho à une des questions qu'on pourra se poser aujourd'hui. Y a-t-il des espaces ordinaires et des terrains ordinaires? Et puis, dernière chose que j'attrape sur ce portail lexical, c'est l'expression « sortir de l'ordinaire » qui consiste à s'écarter de l'usage habituel et de la pratique courante, qui permet de se projeter dans des faits d'espace ou dans des actions de transformation de l'espace qui peuvent connaître des trajectoires et passer de l'ordinaire à l'exceptionnel ou vice-versa. On peut penser à la carrière d'expérimentation faisant passer un objet urbain ou un type d'action de transformation de l'espace de l'exceptionnel au normal par une opération de banalisation. On peut aussi penser à l'institutionnalisation dans les villes de pratiques émergentes, investissement de friches ou suite donnée à des actions de défense d'usage dans des espaces, etc. Alors, si la recherche sur l'ordinaire de la fabrique urbaine n'est pas une sociologie du quotidien, elle partage avec elle les difficultés de l'exercice scientifique consistant à mettre en lumière et en perspective l'ordinaire. On peut citer ici quelques phrases de l'invention du quotidien, et plus particulièrement de son introduction, par Luce Gillard, qui revient sur le projet scientifique confié à son équipe par Certeau. Il s'agissait de chercher à élaborer une science pratique du singulier par laquelle saisir sur le vif la multiplicité des pratiques, non pas les rêver, parvenir à les rendre intelligibles pour que d'autres, alors, à leur tour, puissent en étudier les opérations. C'est un projet ambitieux qui a nécessité un double travail de mise en évidence dans l'ordre des faits et de mise en visibilité dans l'ordre de la théorie. Les tables rondes de notre journée pourront sans doute mettre en évidence ces difficultés et les chercheurs pourront nous dire s'ils s'envisagent comme des voyageurs de l'ordinaire. Ils pourront notamment nous raconter quel protocole d'enquête ils mettent en œuvre pour faire parler l'ordinaire. Ils pourront encore nous dire comment peuvent être restituées ces enquêtes. Les écritures de la recherche sont-elles spécifiques quand on s'attelle à décrire et analyser l'ordinaire de l'urbain et les activités ordinaires de la fabrique urbaine. Voilà, j'en profite pour introduire le volet expérimentation sensible de cette journée. Qui prend la forme d'un montage son et images donnant à voir et à entendre quelques-uns des travaux conduits dans le laboratoire, pour certains déjà restitués sous cette forme de sensible et pour d'autres qui ont fait l'effort de... enfin, qui ont joué le jeu d'une sélection d'images et de sons tirés de leur terrain. On a envisagé ce travail comme une écriture collective qui pourrait être augmentée par les apports des uns et des autres présents à cette journée ou par d'autres chercheurs du laboratoire. Invitation. Et j'en arrive à la fin de cette introduction, dans laquelle je vais revenir sur le trouble ou le double de nos objets. Travaillons-nous sur l'urbain ordinaire ou sur la fabrique urbaine ordinaire ? Vous l'avez compris, on souhaite interroger aujourd'hui, à partir du champ des études urbaines, à la fois les travaux attentifs à l'ordinaire de la ville comme catégorie de la pratique sociale, comme l'écrit Roncaiolo, et ceux attentifs à l'ordinaire de la ville comme catégorie de l'action, comme l'écrit Topalov. Avant de laisser la parole à Kevin et Laurent, qui vont pouvoir nous dire deux mots sur les tables rondes, je voulais à mon tour remercier les chercheurs qui interviennent aujourd'hui, ceux également qui ont accepté d'assurer avec nous l'animation de ces tables rondes, et Véronique Biot, qui a accepté d'assurer la mise en perspective de cette journée. Puis merci aussi à l'équipe support du laboratoire pour leur soutien.
Ouais, bonjour à toutes et tous. Élise a dit beaucoup de choses. A dit beaucoup de choses sur lesquelles nous reviendrons, et en effet je commence peut-être à dire deux mots de ce que nous ferons cet après-midi, où on va davantage poser la question de cet ordinaire avec le trouble évoqué par Élise, via la question des méthodes, des méthodologies, des postures probablement, des chercheurs, et je pense que ce sera le cas aussi de la première table ronde dont Kevin va parler dans la foulée. C'est vraiment l'idée de privilégier une approche conversationnelle de cette question. Et donc on va bien sûr avoir des exposés pour nous lancer, des propositions des uns et des autres, mais pas sur la forme de la succession d'interventions longues, poliment applaudies avant qu'un deuxième intervienne, etc. Donc je pense que dans le même état d'esprit que les précédentes journées, on a vraiment envie de d'aiguiser des questions et puis de nous mettre aussi un petit peu, nous, laboratoire, en question sur des choses qui nous apparaissent comme fondatrices ou structurantes, et puis d'autres qui sont peut-être plus troubles, ou en tout cas des horizons pas complètement définis. Donc la table ronde de cet après-midi est plutôt autour de ces questions méthodologiques et qui associeront autour de la table en présentiel exclusivement. C'est assez impressionnant pour le souligner, ce sera un peu différent pour la première table ronde, je crois. Jean-Yves Toussaint, Lucille Garnier, Laurent Maté, Alice Soggia, merci à vous de vos présences. Et ça, ce sera en effet avant la mise en perspective conclusion de Véronique. Et donc sur ce mode, comme on le disait, conversationnel, je l'espère aussi en rebond de ce qui sera proposé en matinée. Et puis, avant de laisser la parole à Kevin, parce que je pense que la problématique est vraiment clairement posée par Élise, un classique, une petite lecture d'un classique de ce journal d'un usager de l'espace. Tout le monde le connaît ici, tout le monde l'a lu, il y a longtemps parfois. C'est le petit clin d'œil que me faisait Rachel tout à l'heure. Allez, on est dans le chapitre « La rue ». À l'inverse des immeubles qui appartiennent presque toujours à quelqu'un, les rues n'appartiennent en principe à personne. Elles sont partagées assez équitablement entre une zone réservée aux véhicules automobiles, et que l'on appelle la chaussée, et deux zones évidemment plus étroites, réservées aux piétons, que l'on nomme les trottoirs. Un certain nombre de rues sont entièrement réservées aux piétons, soit d'une façon permanente, soit pour certaines occasions particulières. Les zones de contact entre la chaussée et les trottoirs permettent aux automobilistes qui désirent ne plus circuler de se garer. Le nombre des véhicules automobiles désireux de ne pas circuler étant beaucoup plus grand que le nombre de places disponibles, on a limité ces possibilités de stationnement, soit à l'intérieur de certains périmètres appelés « zones bleues » en limitant le temps de stationnement, soit, plus généralement, en instaurant un stationnement payant. Et il me semblait, à relire ce petit passage, qu'il faudrait convoquer Pérec pour interroger ce que donnent les zones à faible émission qui s'installent dans les agglomérations et d'imaginer ce que cela donnerait. Kevin, je te laisse avec la première table ronde, et Nathalie également, à distance.